en accès limité. Une brochure pour réfléchir l'accessibilité des lieux culturels et militants. Un projet de l'ASBL Le Poisson sans bicyclette, avec le soutien d'Equal Brussels et du service éducation permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Introduction. Cette brochure, quoi, pourquoi et comment ?
L'accessibilité, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Si vous consultez cette brochure, c'est que vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que la manière dont est aménagé l'espace lors d'activités socioculturelles exclut beaucoup de personnes et que vous avez envie de faire votre possible pour réparer ces inégalités d'accès.
Nos lieux et nos propositions culturelles sont-elles accessibles et pertinentes pour tous ?
Que peut-on faire pour rendre nos événements et nos espaces accueillants pour davantage de personnes ?
Que signifie réellement l'accessibilité ? Au-delà des rampes pour personnes à mobilité réduite et de l'interprétariat en langue des signes.
Quels sont les besoins oubliés ? Y a-t-il d'autres facteurs d'exclusion de certaines personnes ?
Comment faire évoluer le fonctionnement interne de notre association pour mettre en pratique des valeurs antivalidistes déjà mises à mal par le système capitaliste ?
Ça, ce sont quelques questions que nous avons activement cherché à explorer au cours de ces 18 derniers mois et que vous vous posez peut-être aussi. Pour ce projet, nous nous sommes concentrés sur les questions d'accessibilité matérielle, tout en notant que les inégalités sociales et les discriminations en général sont aussi des facteurs d'exclusion. Cette brochure est destinée à sensibiliser un public large d'actrices du monde socioculturel. Nous nous adressons à un public majoritairement valide et ou peu conscientisé sur les questions de handicap, validisme, psychophobie, grossophobie, ageisme, précarité et classisme et monoparentalité. Nous aussi, on est passé par là et on a encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, si ces mots vous sont inconnus, vous pouvez aussi consulter notre section lexique. En première partie de cette brochure, nous partageons simplement quelques prises de conscience, indignation et motivation à changer que nous avons développées ou renforcées au cours de ce projet. En deuxième partie, nous proposons une petite liste d'aménagements auxquels penser pour l'organisation d'un événement culturel qui peut servir de base pour commencer à rendre nos lieux et événements plus accessibles. La version orale de la brochure restitue la première partie et la brochure est accessible en PDF sur notre site internet. Avant de commencer, précisons qu'il existe évidemment de véritables freins logistiques à la volonté de rendre accessible : manque d'argent, lieu d'implantation, effectifs réduits. Certains aménagements requièrent plus d'investissement que d'autres. Parfois, des besoins sont incompatibles et il faut faire des choix. Même se remettre en question et apprendre demande du temps et de l'énergie. L'idée n'est pas de culpabiliser et décourager, mais de proposer un début de réflexion et quelques idées quand on ne sait pas par où commencer. Nous sommes nous-mêmes en constant apprentissage et expérimentation, tout en étant loin d'être irréprochables en termes d'accessibilité. Les retours, échanges d'expériences et conseils réciproques nous intéressent.
Nous et notre projet.
La question de qui peut accéder à nos espaces, qui participe à nos activités et qui en est exclu ou ne s'y sent pas accueilli nous préoccupe depuis la création de notre collectif. Nous et notre collectif, c'est Le Poisson sans bicyclette, une petite ASBL féministe créée en 2017 et reconnue en éducation permanente en 2021. Nos objectifs, c'est résister, militer et contribuer aux transformations sociales, en expérimentant des espaces de fête, de joie partagée, de solidarité et de constant apprentissage. Avec la pandémie, notre itinérance et la recherche d'un local, ainsi que notre précédent projet Folie furieuse, psychophobie et oppression systémique, la question de l'accessibilité est devenue de plus en plus présente, concrète et urgente. En 2022, un petit banc de poissons parmi nous, aux identités et situations de vie variées, s'est consacré à s'éduquer sur les normes d'accessibilité, à expérimenter d'autres aménagements pas officiellement répertoriés, à remettre en question nos normes culturelles et militantes, à se former sur les questions de validisme, entre autres, et surtout à rencontrer des personnes concernées par des situations d'exclusion multiples et engagées sur le terrain culturel, artistique, associatif et militant. Nous avons organisé 6 tables rondes entre mai et juin 2022. Ces rencontres et tables rondes nous ont énormément apporté, au-delà des éléments strictement en lien avec notre projet.
notre manifeste pour plus d'accessibilité dans le milieu culturel. Ce qu'on a appris et ce sur quoi on a réfléchi.
Se consacrer pleinement à la réflexion sur l'accessibilité, l'écoute ou la lecture de la parole des concernés et la mise en place d'aménagements supplémentaires nous a avant tout systématiquement mis face au fait que beaucoup de corps de personnes ne sont pas pensés dans l'espace public. L'inaccessibilité du milieu culturel, c'est ça. Certaines personnes, avec la forme et le fonctionnement de leur corps, avec leurs besoins, leurs capacités et leurs rythmes, n'ont pas été prévues comme pouvant exister dans l'espace culturel et participer aux activités. Avant même de penser à ce qui pourrait rendre la participation plus agréable et adéquate, il faut se rendre compte que beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas avoir accès à nos espaces, ne peuvent pas entrer dans la salle, entendre ce qu'on dit, s'asseoir sur les chaises, se déplacer aux horaires proposés, assurer le coût d'un billet d'entrée, fréquenter les lieux sans risque de crise ou déclenchement de douleur, et bien d'autres choses encore. En fait, une partie de la population n'a pas le même droit que tout le monde à la participation sociale, aux loisirs, aux rencontres. Pourquoi on ne s'en rend pas compte ? Pourquoi on ne s'en indigne pas davantage ? Bien sûr, on ne peut pas, à une seule association, réparer la société tout entière. Mais on a tout de même une responsabilité. D'autant plus en tant que milieu sensible aux questions sociales. Une responsabilité à prendre conscience de nos biais, faire évoluer nos pratiques, et mettre systématiquement la question de l'accessibilité à l'ordre du jour. Pour nous, la plus grande leçon à retenir, c'est que l'accessibilité n'est pas optionnelle. Ce n'est pas si des personnes le demandent ou s'il reste du budget. Ça devrait être la base, et ça doit donc être pensé et pris en compte dès le début de tout projet. Aussi, prévoir et penser en amont, ça permet d'éviter des dépenses d'énergie et d'argent supplémentaires par la suite, quand on se retrouve à devoir changer de programme et chambouler l'organisation. Il ne s'agit pas de rajouter des touches d'accessibilité comme on rajouterait des morceaux de scotch décoratifs sur un support fissuré, mais de penser dès le départ nos espaces, activités et supports d'information comme accessibles à tous, adaptés pour tous. D'ailleurs, un autre constat qui nous a marqué au cours de nos rencontres et discussions, c'est à quel point nous, et le milieu socioculturel en général, sommes ignorants, ignorantes de ce qui est réellement accessible pour d'autres corps. Pourtant, la norme de corps et de capacité pour laquelle est construite la société ne correspond même pas à la majorité de la population. Du coup, les aménagements dits « spécifiques » bénéficient généralement à bien plus de personnes que celles pour qui ils sont strictement nécessaires. Mais on s'est habitué à considérer comme normaux et allant de soi des espaces, équipements et services inconfortables, voire inaccessibles, pour une grande partie de la population. Et puis, il y a ce cercle vicieux. Comme la société est inaccessible et excluante, on ne voit et ne fréquente pas certaines personnes. Et ces personnes n'ont pas accès non plus aux espaces d'organisation et de décision. Résultat, on se rend à peine compte qu'elles existent. Et on n'a aucune idée de ce qui serait accessible et adapté pour elles. Même quand on commence à s'intéresser à la question, quand on pense bien faire et avoir mis en place des aménagements, on continue à ignorer beaucoup d'aspects, à ne pas penser à des détails qui n'en sont pas pour les personnes concernées, ou à se dire que c'est bien suffisant quand on offre une possibilité d'accès qui est en réalité peu pratique, voire humiliante ou dangereuse, comme porter quelqu'un en fauteuil roulant, par exemple. Imaginer les choses autrement et changer nos automatismes, ça demande pas mal d'informations et d'exercices. C'est un travail progressif et de longue haleine qui sera soutenu par les personnes concernées et expertes qui travaillent dans ce domaine. Un autre point sur lequel on a réfléchi tout au long de l'année, ce sont les concepts d'inclusion et d'inclusivité. On les trouve souvent comme synonymes ou euphémismes pour parler d'accessibilité, ou comme une idée qui devrait dépasser et remplacer l'idée d'accessibilité. Dans l'idéal, oui, l'inclusion, c'est mieux, plus complet, puisqu'il s'agit de penser aussi au sentiment d'appartenance et au respect des identités complexes de chacun chacune. Dans l'idéal, la société dans son entièreté devrait être accessible et inclusive, accueillante de tous et chacun chacune dans sa diversité. Mais dans les faits, à l'heure actuelle, ce sont deux idées différentes. On peut ne pas se sentir à sa place dans un endroit, ne pas se sentir représenté ou incluse dans un contenu, mais y avoir tout de même accès, c'est-à-dire pouvoir s'y rendre, y être, pouvoir lire, entendre, voir. Et nous, On voulait d'abord mettre en évidence que l'accès même n'est pas possible pour un grand nombre de personnes. Or, l'accessibilité, c'est un requis de base. Si on veut commencer quelque part, commençons donc par là. Cela dit, dans notre projet, on a englobé dans notre définition de l'accessibilité des notions d'ergonomie, donc facilité d'utilisation, adaptation optimale, ainsi que de sentiment de sécurité. Parce que nous considérons l'absence de ces aspects comme des freins majeurs à l'accès à la culture, la vie associative et l'engagement militant. Mais si on a voulu distinguer et considérer d'un œil critique les concepts d'inclusion et inclusivité, c'est aussi par respect de l'autonomie des groupes sociaux minorisés et des luttes sociales. Comme l'a formulé une de nos personnes ressources, du collectif Soussou.
Pourquoi parfois on se perd dans la prétention de pouvoir construire pour, au lieu de soutenir la construction de.
Ou autrement dit, on veut inclure, mais ces personnes-là ont-elles vraiment envie ou besoin d'être incluses dans nos espaces? Les individus et les groupes peuvent avoir d'autres priorités, envies, culture communautaire, manière de fonctionner, mode d'organisation, que ce que nous avons et ce que nous projetons sur eux. Lors de nos rencontres, ce sont des personnes sourdes, autistes ou encore issues de milieux précarisés qui nous ont fait remarquer que les communautés peuvent avoir leur propre définition de ce qu'est la culture et la socialisation, et que ces communautés s'organisent et se mobilisent à leur manière. Ce n'est pas forcément souhaitable de viser l'inclusion avant même de s'être posé la question de l'accessibilité de base, ainsi que de s'être demandé comment les personnes marginalisées s'organisent déjà entre elles.
Ce qu'on aimerait transmettre et partager.
Plus concrètement, on aimerait transmettre les principes phares qui nous guident.
L'accessibilité est un droit fondamental et une responsabilité collective.
C'est parfois du boulot, oui. C'est un renversement des habitudes et des perspectives. Mais c'est un passage incontournable si on porte des valeurs de justice sociale et d'égalité et qu'on cherche à contribuer à une société plus juste. Ça ne devrait pas être la responsabilité et la charge logistique, mentale et émotionnelle des personnes exclues que de demander des aménagements, pallier le manque d'accessibilité ou s'arranger avec l'inaccessibilité.
On peut toujours faire un petit quelque chose.
On ne peut pas renverser seul les systèmes d'oppression et remédier à toute une société inaccessible et excluante. Et ce qu'on peut changer dans notre structure et notre lieu d'accueil dépendra aussi de nos moyens financiers et humains. Mais il y a des aménagements qu'on peut mettre en place selon nos moyens. On peut toujours agir à notre niveau, vers davantage d'accessibilité. Qu'est-ce que ça coûte d'écarter les rangées de chaises et de mettre à disposition des informations en amont? C'est juste qu'on n'y pense pas, quand soi-même on n'en a pas besoin.
L'accessibilité, ce n'est pas juste une question de handicap.
Le handicap, c'est-à-dire la limitation des activités possibles et de la participation à la vie en société, il résulte d'une interaction entre les capacités individuelles et les obstacles de l'environnement. Ces obstacles de l'environnement limitent aussi les possibilités de mobilité et participation de personnes qui ont pourtant un corps considéré comme valide. C'est pour ça qu'en réfléchissant sur l'inaccessibilité du milieu socio-culturel spécifiquement, nous avons pris en compte tout un tas d'autres paramètres matériels, concrets, qui limitent l'accès. Par exemple, les situations de précarité et pauvreté, les personnes grosses, les parents solos.
Avant tout, écoutons les personnes concernées.
Trop souvent, on ne voit les personnes en situation de handicap que sous l'angle de la pathologie. On les dépossède de la parole sur elles-mêmes et on pense que tout ce qui les concerne est une question technique et médicale, qui doit être traitée par des personnes qu'on suppose neutres. Pourtant, aussi pour ce qui est des besoins liés à un fonctionnement moteur, sensoriel ou cognitif différent, ce sont les personnes directement concernées qui font l'expérience de vivre dans ce corps et cette situation au quotidien. Ce sont donc elles qui sont les mieux placées pour comprendre et exprimer ce dont elles ont besoin et ce qui leur est adapté. Prenons donc le réflexe d'écouter en premier lieu les personnes concernées, qui vivent la situation elles-mêmes, et de consulter des experts-expertes qui peuvent être des personnes concernées. Évidemment, ça va de pair avec la reconnaissance et la rémunération de l'expertise et du travail des personnes qui mettent à disposition leurs compétences spécifiques.
Les aménagements ne dépendent pas des diagnostics et une personne ne se résume pas à ses besoins d'accessibilité.
La réalité des personnes, de leur corps, leurs capacités, leurs besoins est bien plus complexe, mixte et transversale que des catégories de type de handicap. Parmi les personnes sourdes, certaines signent, d'autres pas. Parmi les usagers-usagères de fauteuils roulants, il existe des différences d'utilisation, de capacité, de type de fauteuil. Il est fréquent de cumuler plusieurs conditions ou handicaps. Et des personnes qui ont des conditions et diagnostics très différents peuvent avoir des besoins similaires et bénéficier des mêmes aménagements. Et puis, au-delà de et souvent avant le besoin d'aménagement, les personnes handicapées, grosses et plus largement exclues de la norme des corps et capacités, sont des personnes à part entière, comme tout le monde, riches et complexes, multifacettes et qui appartiennent souvent à diverses communautés. Comprendre réellement cette diversité permet une meilleure accessibilité et une meilleure prise en compte de tous partout.
Il est fréquent de se trouver à l'intersection de plusieurs oppressions et ça rajoute des difficultés.
Un exemple, quand on représente une personne à mobilité réduite, ça va souvent être un homme en fauteuil, cisgenre, blanc, mince, avec une pathologie unique et simple à comprendre. Dans la réalité, les personnes handicapées cumulent souvent plusieurs pathologies, ont des couleurs de peau, des origines et des appartenances culturelles diverses, sortent des normes de genre et se retrouvent dans les identités queer, font face à la pauvreté, etc. Et ces identités et situations multiples déterminent aussi comment elles vivent au quotidien, à quels espaces elles aimeraient avoir accès et quelles discriminations croisées les touchent. Concrètement, ça veut dire comprendre, par exemple, qu'une grande partie de personnes handicapées et grosses sont aussi précaires, voire pauvres. Qu'il y a beaucoup de personnes queer parmi les personnes handicapées et qu'elles n'ont pas accès à beaucoup de milieux LGBT+. Que les personnes handicapées, queer, grosses et racisées sont invisibilisées et sous-employées dans le milieu artistique et culturel.
Prenons en compte les neurodivergences et politisons les questions de santé mentale.
C'est un point souvent oublié ou mis à part dans les réflexions autour du handicap et de l'accessibilité. Comme si ça n'existait pas, qu'on ne pouvait rien faire pour contribuer à réduire l'exclusion et la stigmatisation des personnes neurodivergentes dans nos milieux, ou comme si les personnes avec un handicap dit « visible » ne pouvaient pas aussi être neurodivergentes ou souffrir de troubles psychiques. En réalité, comme les autres problématiques, les questions de santé mentale et de normes neurocognitives nous concernent tous. Et on peut travailler à rendre nos espaces plus accessibles, informés et accueillants pour les personnes neurodivergentes et souffrant de troubles psychiques.
Ce à quoi on se heurte.
Ce n'est pas que l'événement en lui-même, c'est aussi l'autour et l'en dehors, la fatigue, la temporalité, le manque d'argent.
Un événement socioculturel, ce n'est pas juste un événement isolé. Les personnes handicapées et ou multimarginalisées ont, de manière générale, moins de temps, moins d'argent et plus de fatigue à gérer. Les temporalités et les possibilités de sortir ne sont pas les mêmes. Le quotidien est plein d'imprévus. Se déplacer et participer est plus compliqué en général. En fait, les loisirs sont un luxe auquel on ne peut pas forcément penser quand on est occupé à survivre au quotidien. C'est ça aussi les obstacles à l'accès aux milieux socioculturels. On ne peut pas forcément y remédier directement et simplement, mais en avoir conscience est important. Et ça peut aussi nous pousser à proposer différents accès au contenu. Par exemple, la répétition d'un même événement, l'accès à distance, permettre d'annuler sans frais, etc.
Les intentions se heurtent à de nombreux freins et obstacles.
Ici, par freins et obstacles, on ne parle pas des mentalités et des réticences à mettre des choses en place. Même quand on est vraiment convaincu et engagé, les choses ne vont pas de soi. Ça requiert du temps, de l'énergie, des forces humaines et souvent de l'argent. Et quand on a la chance d'être une association ou institution qui reçoit des financements et subsides, on est tout de même soumis au rythme et aux attentes du marché général. On a beau rêver d'un autre monde, on n'échappe pas en tant que personne, collectif ou association individuelle au système capitaliste dans lequel on vit. Ce système ne prévoit pas de nous laisser le temps et l'énergie nécessaires pour apprendre, s'instruire, se remettre en question, travailler à une organisation collective juste et fonctionnelle, prendre soin les uns les unes des autres et se préserver. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons rencontré de nombreux obstacles de ce genre au cours des derniers mois, pour ce projet-ci, et en général dans la vie de notre association. Au Poisson, on vit aussi avec d'une part le manque d'argent, et d'autre part l'obligation de faire des heures et rendre des comptes par rapport au financement qu'on a. Plus généralement, nous faisons l'expérience de la pression du temps, le manque d'énergie et de force humaine, la fatigue militante et le risque de burn-out, les situations de handicap et vulnérabilité économique de plusieurs de nos membres, la complexité des démarches administratives, etc. Cela dit, reconnaître les obstacles et limites systémiques n'empêche pas d'y réfléchir collectivement et de continuer à agir.
L'accessibilité n'est pas un coup de baguette magique qui efface l'habitude de l'exclusion.
Un petit point d'attention souvent rappelé par nos personnes ressources. Rendre accessible ne suffit pas à faire magiquement venir les personnes. On essaye nous-mêmes de nous en souvenir pour ne pas se décourager ni se tromper d'objectif. On peut déjà chercher à comprendre les raisons et voir si on peut faire davantage ou différemment. Est-ce que ce sont des freins autour de l'événement ? Une stratégie de communication pas adaptée ? Ensuite, il faut comprendre que ça peut prendre du temps pour que les personnes habituées à l'exclusion reprennent confiance dans nos espaces et veuillent bien retenter l'expérience. C'est aussi pour ça que penser l'accessibilité doit devenir une habitude, quelque chose de constant et pas un investissement ponctuel que l'on fait en espérant un retour ou une rentabilisation.
Ce qu'on s'encourage et encourage à explorer.
Si on veut vraiment soutenir les personnes exclues de nos espaces culturels et militants, faire des aménagements matériels de manière ponctuelle ne suffit pas. Pour nous, la publication de cette brochure et la réflexion sur les aménagements matériels faisables n'est pas un aboutissement en soi, mais au contraire le début de quelque chose, la base sur laquelle on va pouvoir réfléchir, échanger, expérimenter, mettre en pratique, bref, aller plus loin. Déjà, on constate la nécessité de changer aussi notre organisation interne et l'accessibilité de notre fonctionnement associatif, à commencer par nos réunions, bien sûr. Et puis, au-delà des aménagements matériels, on aimerait aussi continuer à nous informer et nous former, afin d'être de meilleurs alliés ou complices, soutenir les luttes plus largement, et apprendre à intégrer systématiquement dans nos réflexions et actions la question du validisme, de la grossophobie, du classisme, etc. Plus largement, on aimerait encourager tout le monde, à commencer par nous-mêmes, à s'intéresser à l'histoire et l'actualité des luttes handi et folles, ainsi qu'au fat-activisme. Peut-être que vous découvrez ici qu'il existe de telles luttes, déjà anciennes, et des communautés, des artistes, des performances, des associations, qui fonctionnent totalement différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est essentiel de regarder ce qui se fait déjà, et a déjà été fait, pour remettre en question nos normes, habitudes et automatismes, et s'aider à envisager un chemin différent pour l'avenir.
Avec la participation des ASBL Fat Friendly et Handicapables, des collectives Frida et Def Féministes et du collectif Soussou. Merci à Alice, Pelfine, Mula Kozet, Shahin Mohamed, Samia, Fatima, Ambrose, Amel, Zora, Claire Bald, Anna, Marie Delieu, Claire Cochet et Charlie pour leur temps, leur expertise et leur confiance.